Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, Conte cruel, Les demoiselles de Bienfilâtre, en exergue, De la lumière, dernière parole de Goethe. Pascal nous dit qu'au point de vue des faits, le bien et le mal sont une question de latitude. En effet, tel acte humain s'appelle crime ici, bonne action là-bas, et réciproquement. Ainsi, en Europe, l'on chérit généralement ses vieux parents. Et en certaines tribus de l'Amérique, on leur persuade de monter sur un arbre, puis on secoue cet arbre. S'il tombe, le devoir sacré de tout bon fils est, comme autrefois chez les Messéniens, de les assommer sur le champ à grands coups de tomahawk pour leur épargner les soucis de la décrépitude. S'ils trouvent la force de se cramponner à quelques branches, c'est qu'alors ils sont encore bons à la chasse ou à la pêche, et alors on sursoit à leur immolation. Autre exemple, chez les peuples du Nord, on aime à boire le vin, au flot rayonnant où dort le cher soleil. Notre religion nationale nous avertit même que le bon vin réjouit le cœur. Mais chez le Mahométan voisin, au sud, le fait regardé comme un grave délit. À Sparte, le vol était pratiqué et honoré, c'était une institution hiératique, un complément indispensable à l'éducation de tout lacédémonien sérieux. De là, sans doute, les Grecs. Et en Laponie, le père de famille tient à honneur que son fils soit l'objet de toutes les gracieusetés dont on peut disposer le voyageur admis à son foyer. La Bessarabie aussi. Au nord de la Perse et chez les peuples du Kaboul, qui vit dans de très anciens tombeaux, si, ayant reçu dans quelques sépulcres confortables un accueil hospitalier et cordial, vous n'êtes pas, au bout de 24 heures, du dernier mieux avec toute la progéniture de votre hôte, Guèbre, Paris ou Valabite, il y a lieu d'espérer qu'on vous arrachera tout bonnement la tête. Supplice en vogue dans ces climats. Les actes sont donc indifférents en tant que physique. La conscience de chacun les fait, seul, bon ou mauvais. Le point mystérieux qui gît au fond de cet immense malentendu est cette nécessité native où se trouve l'homme de créer des distinctions et des scrupules, de s'interdire telle action plutôt que telle autre, selon que le vent de son pays lui aura soufflé celle-ci ou celle-là. L'on dirait enfin que l'humanité tout entière a oublié et cherche à se rappeler à tâtons on ne sait quelle loi perdue. Il y a quelques années, florissait, orgueil de nos boulevards, certains vastes et lumineux cafés situés presque en face d'un de nos théâtres de genre, dont le fronton rappelle celui d'un temple païen. Là se réunissait quotidiennement l'élite de ces jeunes gens qui se sont distingués depuis, soit par leur valeur artistique, soit par leur incapacité, soit par leur attitude dans les jours troubles que nous avons traversés. Parmi ces derniers, il en est même qui ont tenu les rênes du char de l'État. Comme on le voit, ce n'était pas de la petite bière que l'on trouvait dans ce café des mille et une nuits. Le bourgeois de Paris ne parlait que de ce pandémonium qu'en baissant le ton. Souvent, toutefois, le préfet de la ville y jetait négligemment, en manière de carte de visite, une touffe choisie à un bouquet inopiné de chers gens de ville. Et ceux-ci, de cet air distrait et souriant qui les distingue, y époussetaient alors, en se jouant de toutes leurs sortes de balles, les têtes espiègles et mutines. C'était une attention qui, pour être délicate, n'en était pas moins sensible. Le lendemain, il n'y paraissait plus. Sur la terrasse, entre la rangée de fiacres et de vitrages, une pelouse de femmes, une floraison de chignons échappés du rayon de Guy, attifée de toilettes invraisemblables, se pressait sur les chaises auprès des guéridons de fer battu, peint en vert, espérance. Sur ces guéridons étaient délivrés des breuvages. Les yeux tenaient de l'émerillon et de la volaille. Les unes conservaient sur leurs genoux un gros bouquet, les autres un petit chien, les autres rien. Vous eussiez dit qu'elles attendaient quelqu'un. Parmi ces deux jeunes, ces jeunes femmes, deux se faisaient remarquer par leur assiduité. Les habitants de la célèbre salle célèbre les nommaient tout court Olympe et Henriette. Celle-là venait dès le crépuscule, s'installait dans une anfractuosité bien éclairée, réclamait plutôt par contenance que par besoin réel un petit verre de Vespero ou de Mazagran, puis surveillait les passants d'un œil méticuleux. Et c'étaient les demoiselles de Benifâtre. Leurs parents, gens intègres, élevés à l'école du malheur, n'avaient pas eu le moyen de leur faire goûter les joies d'un apprentissage. Le métier de ce couple austère consistant principalement à se suspendre à chaque instant avec des attitudes désespérées à cette longue torsade qui correspond à la serrure d'une porte cochère. Dur métier, et pour recueillir à peine et clairsemer quelques deniers à Dieu. Jamais interne n'était sorti pour cela à la loterie. Aussi, bien filâtre, maugréait-il, en faisant le matin son petit caramel. Olympe et Henriette, en pieuse fille, comprirent de bonne heure qu'il fallait intervenir. Sœurs de joie depuis leur plus tendre enfance, elles consacrèrent le prix de leur veille et de leur sueur à entretenir une aisance modeste, il est vrai mais honorable, dans la loge. « Dieu bénit nos efforts, » disait-elle parfois, quand on leur avait inculqué de bons principes et, tôt ou tard, une première éducation basée sur des principes solides porte des fruits. Lorsqu'on s'inquiétait de savoir si leur labeur excessif, quelquefois, n'altérait pas leur santé, elle répondait évasivement, avec cet air doux et embarrassé de la modestie, et en baissant les yeux, « Il y a des grâces d'État. » Les demoiselles de Bienfilâtre étaient, comme on dit, de ces ouvrières qui vont en journée la nuit. Elles accomplissaient aussi dignement que possible, vu certains préjugés du monde, une tâche ingrate, souvent pénible. Elles n'étaient pas de ces désœuvrées qui proscrivent comme déshonorant le saint calus du travail et n'en rougissaient point. On citait d'elles plusieurs beaux traits dont le centre de Mantillon avait dû tressaillir dans son bureau cénotaphe. Un soir, entre autres, elles avaient rivalisé d'émulation et s'étaient surpassées elles-mêmes pour solder la sépulture d'un vieux oncle, lequel ne leur avait cependant légué que le souvenir de taloches variées dont la distribution avait eu lieu la guerre au jour de leur enfance. Aussi était-elle vue d'un bon œil par tous les habitants de la salle estimable, parmi lesquels se trouvaient des gens qui ne transigeaient pas. Un signe amical, un bonsoir de la main, répondait toujours à leurs regards et à leurs sourires. Jamais personne ne leur avait adressé un reproche, ni même une plainte. Chacun reconnaissait que leur commerce était doux, affable. Bref, elles ne devaient rien à personne, faisaient honneur à tous leurs engagements et pouvaient, par conséquent, porter haut la tête. Exemplaires, elles mettaient de côté pour l'imprévu, pour quand les temps seraient durs, pour se retirer honorablement des affaires un jour. Rangées, elles fermaient le dimanche. En filles sages, elles ne prêtaient point l'oreille aux propos des jeunes muguets qui ne sont bons qu'à détourner les jeunes filles de la voie rigide du devoir et du travail. Elles pensaient qu'aujourd'hui, la lune seule est gratuite en amour. Leur devise était « célérité, sécurité, discrétion ». Et sur leur carte de visite, elles ajoutaient « spécialité. Un jour, la plus jeune Olympe tourna mal. Jusqu'alors irréprochable, cette malheureuse enfant écouta les tentations auxquelles l'exposait plus que d'autres, qui la blâmeront trop vite peut-être, le milieu où son état la contraignait de vivre. Bref, elle fit une faute, elle aima. Ce fut sa première faute. Mais qui donc a sondé l'abîme où peut nous entraîner une première faute? Un jeune étudiant, candide, beau, doué d'une âme artiste et passionnée, mais pauvre comme Job, un nommé Maxime, dont nous taisons le nom de famille, lui conta des douceurs et la mit à mal. Il inspira la passion céleste à cette pauvre enfant qui, vu sa position, n'avait pas plus de droit à l'éprouver qu'Ève à manger le fruit divin de l'arbre de la vie. De ce jour, tous ses devoirs furent oubliés. Tout alla sans ordre et la débandade. Lorsqu'une fillette a l'amour en tête, va te faire l'en l'air. Et sa sœur, hélas, cette noble Henriette, qui maintenant pliait, comme on dit, sous le fardeau. Parfois elle se prenait la tête dans les mains, doutant de tout, de la famille, des principes, de la société même. « Ce sont des mots !» criait-elle. Un jour, elle avait rencontré Olympe vêtue d'une petite robe noire en cheveux et une petite jatte de fer blanc à la main. Henriette, en passant, sans faire semblant de la reconnaître, lui avait dit très bas « Ma sœur, votre conduite est inqualifiable. Respectez au moins les apparences. » Peut-être par ces paroles espérait-elle un retour vers le bien. Tout fut inutile. Henriette sentit qu'Olympe était perdue. Elle rougit et passa. Le fait est qu'on avait jasé dans la salle honorable. Le soir, lorsqu'Henriette arrivait seule, ce n'était plus le même accueil. Il y a des solidarités. Elle s'apercevait de certaines nuances humiliantes. On lui marquait parfois plus de froideur depuis la nouvelle de la malversation d'Olympe. Fière, elle souriait comme le jeune Spartiate dont un renard déchirait la poitrine, mais dans ce cœur sensible et droit, tous ses coups portaient. Pour la vraie délicatesse, un rien fait plus de mal souvent que l'outrage grossier, et sur ce point, Henriette était d'une insensibilité de sensitive, comme elle dut souffrir. Et le soir donc, au souper de la famille, le père et la mère, baissant la tête, mangeaient en silence. On ne parlait point de l'absente. Au dessert, au moment de la liqueur, Henriette et sa mère, après s'être jeté un regard à la dérobée et avoir essuyé une larme respective, avaient un muet serrement de main sous la table. Et le vieux portier, désaccordé, tirait alors le cordon, sans motif, pour dissimuler quelques pleurs. Parfois, brusque et en détournant la tête, il portait la main à sa boutonnière, comme pour en arracher de vagues décorations. Une fois même, le Suisse tenta de recouvrer sa fille. Même, morne, il prit sur lui de gravir les quelques étages du jeune homme. Et là, je désirerais ma pauvre enfant, sanglota-t-il. Mais monsieur, répondit Maxime, je l'aime, et vous prie de l'accorder sa main. Misérable ! S'était exclamé Bienfilâtre en s'enfuyant, révolté de ce cynisme. Henriette avait épuisé le calice. Il fallait une dernière tentative. Elle se résigna donc à risquer tout, même le scandale. Un soir, elle apprit que la déplorable Olympe devait venir au café régler une ancienne petite dette. Elle prévint sa famille et l'on se dirigea vers le café lumineux. Pareil à la Madonia désespérée par Tibère, et se présentant devant le Sénat romain pour accuser son violateur avant de se poignarder en son désespoir, Henriette entra dans la salle des austères. Le père et la mère, par dignité, restèrent à la porte. On prenait le café. À la vue d'Henriette, les physionomies s'aggravèrent d'une certaine sévérité. Mais comme on s'aperçut qu'elle voulait parler, les longues plaquettes des journaux s'abaissèrent sur les tables de marbre et il suivit un religieux silence. Il s'agissait de juger. L'on distinguait dans un coin, honteuse et faisant presque invisible, Olympe, sa petite robe noire, à une petite table isolée. Henriette parla. Pendant son discours, on entrevoyait à travers le vitrage les bienfilâtres inquiets qui regardaient sans entendre. À la fin, le père n'y put tenir, et il entrebâilla la porte et, penché, l'oreille au guet, la main sur le bouton de la serrure, il écoutait, et des lambeaux de phrases lui arrivaient lorsqu'Henriette élevait un peu la voix. L'on se devait à ses semblables, ont une telle conduite. C'était se montrer à dos tous les gens sérieux. Un galopin qui ne lui donne pas un radis, un vaurien. L'ostracisme qui pesait sur elle, dégageait sa responsabilité. Une fille qui a jeté son bonnet par-dessus les moulins, qui baille aux grues, qui naguère encore, tenait le haut du pavé. Mais elle espérait que la voix de ces messieurs, plus autorisée que la sienne, que les conseils de leur vieille expérience éclairée, ramènerait à des idées plus saines et plus pratiques. On n'est pas sur la terre pour s'abuser. Elle les suppliait de s'entremettre. Elle avait fait appel à des souvenirs d'enfance, à la voix du sang. Tout avait été vain. Rien ne vibrait plus en elle. Une fille perdue. Et quelle aberration, hélas! À ce moment, le père entra, courbé dans la salle honorable. À l'aspect du malheur immérité, tout le monde se leva. Il est de certaines douleurs qu'on ne cherche pas à consoler. Chacun vint en silence serrer la main du digne vieillard pour lui témoigner discrètement de la part qu'on prenait à son infortune. Olympe se retira, honteuse et pâle. Elle avait hésité un instant, se sentant coupable à se jeter dans les bras de la famille et de l'amitié, toujours ouvert au repentir. Mais la passion l'avait emportée. Un premier amour jette dans le cœur de profondes racines qui étouffent jusqu'au germe des sentiments antérieurs. Toutefois, l'esclandre avait eu dans l'organisation d'Olympe un retentissement fatal. Sa conscience, bourrelée, se révoltait. La fièvre la prit le lendemain. Elle se mit au lit. Elle mourait de honte, littéralement. Le moral tuait le physique. La lame usait le fourreau. Couchée dans sa petite chambrette, et sentant les approches du trépas, elle appela. De bonnes âmes voisines lui amenèrent un ministre du ciel. L'une d'entre elles émit cette remarque qu'Olympe était faible et avait besoin de prendre des fortifications. Une fille à tout faire lui monta donc un potage. Le prêtre parut. Le vieil ecclésiastique s'efforça de la calmer de par des paroles de paix, d'oubli et de miséricorde. « Mais j'ai eu un amant !» murmurait Olympe, s'accusant ainsi de son déshonneur. Elle omettait toutes les peccadilles, les murmures, les impatiences de la vie. Cela seulement lui venait à l'esprit. C'était l'obsession, un amant, pour le plaisir, sans rien gagner. Là était le crime. Elle ne voulait pas atténuer sa faute en parlant de sa vie antérieure, jusque-là toujours pure et toute d'abnégation. Elle sentait bien que là, elle était irréprochable. Mais cette honte où elle succombait d'avoir fidèlement gardé de l'amour un jeune homme sans position, et qui, suivant l'expression exacte et vengeresse de sa sœur, ne lui donnait pas paradis. Henriette, qui n'avait jamais failli, lui apparaissait comme dans une gloire. Elle se sentait condamnée, redoutait les foudres de son souverain juge, vis-à-vis duquel elle pouvait se trouver face à face d'un moment à l'autre. L'ecclésiastique, habitué à toutes les misères humaines, attribuait au délire certains points qui lui paraissaient inexplicables, diffus même, dans la confession d'Olympe. Il y eut là, peut-être, un quiproquo, certaines expressions de la pauvre enfant ayant rendu l'abbé rêveur deux ou trois fois. Mais le repentir, le remords, étant le point unique dont il devait se préoccuper, peu importait le détail de la faute, la bonne volonté de la pénitente, sa douleur sincère suffisait. Au moment donc où il allait lever la main pour absoudre, la porte s'ouvrit bruyamment. C'était Maxime, splendide, l'air heureux et rayonnant, la main pleine de quelques sécus, et de trois ou quatre napoléons qu'il faisait danser, sonner triomphalement. Sa famille s'était exécutée à l'occasion de ses examens, c'était pour ses inscriptions. Olympe, sans remarquer d'abord cette significative inconstance atténuante, étendit avec horreur ses bras vers lui. Maxime s'était arrêté, stupéfait de ce tableau. Courage, mon enfant, murmura le prêtre, qui crut devoir dans le mouvement d'Olympe un adieu définitif à l'objet d'une couva coupable et immodeste. En réalité, c'était seulement le crime de ce jeune homme qu'elle repoussait. Et ce crime était de n'être pas sérieux. Mais au moment où l'auguste pardon descendait sur elle, un sourire céleste illumina ses traits innocents. Le prêtre pensa qu'elle se sentait sauvée et que d'obscures visions séraphiques transparaissaient pour elle sur les mortelles ténèbres de la dernière heure. Olympe, en effet, venait de voir vaguement les pièces du métal sacré reluire entre les doigts transfigurés de Maxime. Ce fut seulement alors qu'elle sentit les effets salutaires des miséricordes suprêmes. Un voile se déchira. C'était le miracle. Par ce signe évident, elle se voyait pardonnée d'en haut et rachetée. Éblouie, la conscience apaisée, elle ferma les paupières comme pour se recueillir avant d'ouvrir ses ailes vers les bleus infinis. Puis ses lèvres s'entr'ouvrirent et son dernier souffle s'exhala comme le parfum d'un lys en murmurant ces paroles d'espérance. Il a éclairé!